Bienvenue à la French Connection, épisode 90.
Cette semaine, nous sommes avec Richer.
Salut!
Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu avec nous, fait que ça va être fort agréable de rebrasser des idées ensemble.
Ben oui.
Donc, commençons par les Shameless Plugs. J'ai en profité pour repluguer une autre fois le ShawiSec, qui est un regroupement de sécurité à Shawinigan. Donc, dans les show notes, il y a leur site en question. Fait qu'aller voir, aller les encourager, aller participer à ce genre de choses-là. C'est essentiel que partout au Québec, des communautés de cette nature-là prennent place. Ensuite, l'OWASP organise le 19 février concevoir et implanter un plan de formation et de sensibilisation à la sécurité. Le 28 février, il y aura le Québec Sec, un sujet qui va être à venir. 21 mars, à Montréal, sécurité de l'information, faite par les affaires, où Damien et Steve Waterhouse seront présents comme conférenciers, ce qui risque d'être fort intéressant. Et finalement, le 8 avril, le Secure, l'événement de sécurité défensive organisé par Québec Numérique. Donc, commençons par les nouvelles. La première, il y a une étude qui est sortie sur le fait que les téléphones Android ont un certain problème de mise à jour, ou en tout cas un certain retard de mise à jour qui est fait sur les différents systèmes d'exploitation, sur les différentes versions de Android, au sens où les gens qui ont des téléphones de cette nature-là, soit ne les mettent pas spontanément à jour, autant qu'on peut voir dans l'univers Apple iOS, où il y a comme une poussée qui nous oblige à mettre à jour. Et dans une réflexion de sécurité, ces éléments-là sont très, très importants, puisque si on ne met pas à jour nos appareils, on va tomber dans un système où dans une phase où il y a une masse de plus en plus grande de téléphones Android qui ont des versions désuètes, mal protégées, mal sécurisées, puis donc qui vont exposer un peu ces gens-là, qui, j'ai l'impression, pour la plupart, sont pas nécessairement très, très au fait des problèmes dans lesquels ils s'exposent, faute d'éducation généralisée au niveau des considérations de sécurité. Mais ces gens-là vont exposer leur téléphone à des codes malveillants, à des sites qui vont être capables d'utiliser les vulnérabilités, qui vont être capables de faire ce genre de choses-là, puisque tous les malfrats de ce monde concentrent leur recherche énormément sur ce genre de choses-là. Et je passe la main à Richer sur là-dessus.
Oui, dans le fond, ce qui est un petit peu difficile, c'est un peu le même principe que Microsoft, qui a besoin d'avoir à gérer avec plusieurs types de machines différentes, comme les téléphones, on s'entend. Il y a pas juste la dernière version qui est mise à jour. Il y a des vieux téléphones qui sont encore en circulation. Ce qui fait que le fait que les gens sont pas nécessairement au courant qu'il faudrait faire des mises à jour. Il y a encore de la difficulté même juste avec des PC. Donc, de pouvoir être capable de faire ça et d'être constant à ce niveau-là, c'est encore au niveau d'éducation pour être capable d'avoir les gens qui soient en mesure de savoir c'est quoi qui est important et pourquoi c'est important en même temps. Parce qu'autrement, si tu comprends pas l'importance de ça et pourquoi que quelqu'un pourrait tout simplement attaquer ton téléphone et ça serait quoi l'intérêt, les gens feront pas. S'ils comprennent pas, ils feront pas.
Ah, c'est bien ça. Puis en même temps, c'est un concept qui est un peu, pour une certaine génération de gens, d'avoir l'idée que tu dois mettre à jour ton téléphone régulièrement, est un concept qui peut peut-être être farfelu. C'est comme se dire qu'il faut que j'aille mettre le firmware de mon auto à jour. J'ai l'impression que pour plusieurs, c'est un peu obscur, un peu farfelu même comme idée. Donc, on est dans un espèce d'univers limite sur bien des choses comme ça, dans lequel on n'est pas, surtout les plus vieilles générations, là, je n'en parle pas de façon négative, là, mais les gens qui n'ont pas vécu avec ça dans les mains, qui ne sont pas habitués à ce genre de choses-là, mais tout ça, même, à la limite, même les jeunes ne se rendent pas compte des vulnérabilités qui sont associées à ce genre d'appareil-là, puis tous les risques qui sont associés, puis au final, on a un ordinateur dans nos poches, et comme tu disais, si on ne met même pas à jour nos Windows, comment on va mettre à jour nos téléphones à ce moment-là? Comment on peut pousser les gens à forcer ce genre de choses-là davantage?
On va essayer de voir, mais en réalité, comme on disait, c'est une question d'éducation, mais en même temps, de pouvoir mettre ça le plus simple possible et aussi de, comme par exemple, ça fait un bout de temps que j'avais pas vu sur Android, s'il y avait un pop-up en bon français qui apparaît pour dire oui, il y a une nouvelle mise à jour ou bien tu viens de recevoir ça. Il y a aussi le principe qu'il n'y a pas tous les fournisseurs de téléphones qui sont à jour en même temps. Donc, par exemple, si tu prends anciennement, là, il y avait les Nexus puis tout ça, là, donc les téléphones Google directement, les Pixel maintenant, qui sont directement avec Google, eux autres reçoivent en premier les mises à jour et les gros updates pour être capable d'avoir des nouvelles versions, des nouvelles affaires de sécurité puis tout ça, mais ça relève quand même des fabricants de téléphones pour le reste des mises à jour, comme par exemple Samsung, ils sont pas très vite. En tout cas, jusqu'à date, j'ai pas vu qu'il était très rapide pour pouvoir mettre à jour ou pousser des nouvelles mises à jour. Peut-être une question de développement, une question de test, une question de QA là-dessus pour être sûr que la qualité est là. Mais reste que ça, l'impression que ça donne, c'est que c'est pas nécessairement poussé autant que ça devrait l'être. Mais c'est de voir. Mais en sachant pas l'arrière-plan, tout ça, ça veut pas dire que c'est une mauvaise gestion de leur côté. Mais on peut quand même se poser la question.
Oui, tout à fait. Puis, en tout cas, moi, je m'y connais beaucoup moins, Android, étant un utilisateur de iPhone, fait que ça, je connais moins ce genre de choses-là. Effectivement, chaque fabricant est reconnu pour avoir des vitesses de diffusion différentes. Puis même dans certains égards, ce que j'avais lu, c'est que les fournisseurs cellulaires aussi sont un gatekeeper qui empêche l'application rapide de certains correctifs sur le téléphone, sur leur réseau, ce qui des vieilles habitudes de ces fournisseurs-là. De contrôler les équipements jusqu'à un certain point, sans, dans ce cas-ci, comprendre les risques de sécurité qui sont associés. Et de ce que je connais, ben, puis mon univers est plus iOS, les patchs maintenant nous sont pratiquement imposés. Après un certain délai, après la sortie, on reçoit des pop-up qui nous obligent, dans plusieurs cas, de réussir à faire quelque chose dans ce sens-là.
Oui, c'est ça. Ben, c'est justement dans cette veine-là que je parlais, là, que avec l'iOS que tu reçois, pop-up comme ce matin, j'en avais reçu un qui disait, bon, ben, on a téléchargé cette patch-là, fait que maintenant, il suffit juste de l'installer, elle va s'installer ce soir, mais où tu peux le faire tout de suite. Fait que dans le fond, comme ça, c'est pas intrusif au point de vue que ça vient pas te forcer à faire un redémarrage soudain de ton téléphone pendant que tu l'utilises dans la journée. Mais au moins, ça t'indique comme quoi que oui, il va y avoir un redémarrage et oui, ça va être fait. Dans le même principe qu'un Windows, que souvent on fait juste comme remettre à plus tard, la même chose pour le macOS qu'on dit tout le temps, alors remettre à plus tard, qui est une très, très mauvaise pratique. C'est tellement facile de juste... Non, autant qu'on va chialer que Windows avait tendance à juste redémarrer soudainement, qu'il y avait une mise à jour, puis nous forçait à tout faire ça, à fermer tout ça, qui est une pratique qui est un petit peu agressive, mais qui est une bonne pratique du point de vue que ça nous force à le faire, mais en même temps, en contraste avec macOS qui fait juste se dire « Oui, OK, je vais te le rappeler demain. » C'est correct. Mais finalement, on finit par... Demain devient une semaine, deux semaines, trois semaines. Ce qui fait qu'en bout de ligne, ça éduque pas plus les gens dans les deux cas. Soit que les personnes sont frustrées par rapport aux mises à jour, ce qu'ils feront, ils voudront pas les faire ou ils vont les désactiver. Et ou ils les feront tout simplement pas parce qu'ils sont pas obligés, parce qu'ils peuvent le remettre à demain. Ce qui fait que finalement, la procrastination est un gros problème de sécurité.
Oui, c'est un enjeu quand même assez important de ce genre de choses, effectivement. Puis ben, moi, je suis plus du genre à vouloir mettre à jour, fait que ça, mais j'aime bien le fait que je me fais rappeler par iOS ou macOS aussi, parce que je suis une utilisateur des deux. Ce qui fait que je me le fais dire avec mon AV, entre autres, que je vais me faire avertir quand il y a des mises à jour, qui ne sont pas toujours, nécessitent pas toujours un redémarrage. Sur le téléphone, il est relativement obligatoire, mais au moins sur le OS, c'est pas tout le temps, tout dépendant de la nature des mises à jour. Là. Il y a eu certains, peut-être plus au niveau de la sécurité qui sont plus de cette nature-là. Et tant que parler de macOS, moi, je vais glisser au deuxième sujet qui est Mojave, qui, en tout cas, Apple a eu un dernier mois assez brutal avec FaceTime qui a eu connu des problèmes de sécurité importants. Puis là, ça a l'air qu'on est capable d'accéder à l'historique de navigation avec Safari. Parce qu'il y a eu des contrôles de sécurité qui ont été mal appliqués ou mal développés. Donc, ils vont devoir sortir encore des nouveaux correctifs, des nouvelles choses. Donc, ça ne fait que s'empiler un peu du malheur que de sécurité sur eux autres. Peut-être parce que maintenant, les gens regardent davantage la sécurité de ces équipements-là. Donc, ils sont prêts à déceler des problèmes, des différents éléments.
Oui, donc ça, c'était vraiment un bug qui était quand même agressif et que, selon certains, il n'avait pas été réglé assez rapidement après l'avoir trouvé, mais c'est juste ça, c'est relatif, là. Mais c'est comme tu dis, on voit de plus en plus, il y avait même dernièrement une fausse mise à jour de Flash pour le macOS qui était finalement un trojan qui allait directement pouvoir contrôler l'ordinateur. Donc, dans le même principe, ça vient en ligne de compte que ça peut être plus une cible pour être des pour vérifier les vulnérabilités, se faire un petit peu plus attaquer, étant donné que c'est plus ça commence à être plus commun dans certains cas, et aussi le fait que on était longtemps à se dire quand on va sur Mac, on n'a pas de virus, mais c'est juste parce qu'il y en avait moins qui étaient ciblés dans ce sens-là. Et donc, c'est pas nécessairement tout à fait à l'abri. Dans certains cas, il y a beaucoup de protections qui sont bien, mais encore là, c'est ça. C'est une question de popularité et d'utilisation, puis de marché aussi. Ce qui fait que pour les méchantes personnes qui vont vouloir attaquer certaines plateformes, ils vont prendre plus de temps pour être capables d'aller dans cette direction-là et de plus consacrer du temps pour être en mesure de pouvoir de pouvoir attaquer ça.
Ouais, ben c'est un peu ça, pour reprendre un peu ce que tu dis, c'est que le niveau de l'eau a augmenté, c'est que la sécurité générale des plateformes, puis c'est aussi valide autant au niveau de macOS que de Windows. On a longtemps bitché sur le fait que Windows n'était pas un système très sécuritaire, qui effectivement, à une certaine époque, c'était pas très reluisant, mais depuis, on fait d'énormes efforts, puis les deux, tant qu'à moi, sont relativement à parité, peut-être pas dans les mêmes zones chacun, mais sont relativement à parité. Ce qui fait que les attaquants aussi ont suivi la tendance, donc ont raffiné leurs choses. Et dans bien des cas, vont s'attaquer à la façon que les utilisateurs utilisent leur système versus attaquer le système lui-même. On a changé de vecteur pour arriver sensiblement au même objectif. Aller voler de l'argent, voler des informations, faire chanter les gens. Dans le fond, c'est toujours une question d'argent dans tous les cas. Ou du mining, ou on a toujours de l'argent. Il n'y a pas de gens qui, pour des raisons... de façon générale, pour des raisons personnelles, vont s'attaquer à des systèmes. En général, les mécréants vont préférer aller, comme les crimes organisés, aller ramasser de l'argent. Fait que dans cette mesure-là, c'est un peu comme cela. Fait que glissons, disons, à la troisième nouvelle, qu'il y aurait un système de courriel qui se serait fait complètement bousiller.
Oui, effectivement. Donc, VF Email, qui est comme le nom l'indique, un fournisseur de courriel, se sont fait attaquer. Et l'attaque, c'était une attaque, pas seulement une attaque pour obtenir des informations, c'était vraiment une attaque avec comme but la destruction. Donc, ils se sont fait détruire des machines, des VM qui ont été complètement effacées, et les backups aussi ont été effacés. J'ai pas vu exactement toute l'envergure de si c'était tous les sites au complet qui avaient été faits, mais puisqu'ils ont plusieurs endroits dans le monde, mais il y en avait plusieurs places qui étaient complètement effacées. Et donc quand on parle de courriel, c'est avec les pratiques qu'on a habituellement, comme on le voit souvent, les gens vont utiliser la corbeille comme un endroit pour archiver des courriels, ce qui est pas nécessairement une bonne pratique. On s'attend à ce que les courriels restent toujours là. On prend pas en compte que les courriels peuvent disparaître s'il reste sur le serveur. Si le serveur disparaît, on ne les a plus. Là. Fait que ça, c'est assez extrême. Et les gens sont très sensibles au niveau de leur courriel. Quand les courriels ne fonctionnent pas, tu vois habituellement quand tu vois ça dans un tech niveau 1, quand tu as des appels de service, si les courriels ne fonctionnent pas, les gens sont plus agressifs que si c'est juste l'Internet qui ne fonctionne pas. En tout cas, c'est ce que j'avais remarqué avec le temps. Et donc, c'est vraiment pas drôle. Il y a comme une grosse émotion par rapport à ça. Ce qui fait que c'est vraiment pas une drôle d'histoire. Et ils ont été capables de pouvoir revenir avec des services fonctionnels après un certain temps. Mais n'empêche que tout ce qui était là, si les backups fonctionnent pas, puis ils sont pas capables de restaurer rien, si on recommence à neuf, là. Fait que c'est dans tous les cas, c'est vraiment pas drôle comme histoire.
Effectivement, mais en plus, ça me fascine quand à quel point cette attaque-là est brutale, parce que juste que d'aller effacer les backups, c'est d'aller loin. Et dans le fond, c'est de laisser aucune chance à la personne, en tout cas cette entreprise-là, de s'en remettre. Mais l'autre aspect que tu mettais en lumière, c'est que le fait, les gens dépendent beaucoup des courriels. Je ne sais pas si les jeunes, c'est plus une question de génération. Moi, je suis très courriel, je regarde mes enfants, sont pas pantoute de courriel, fait que c'est peut-être une question de génération à ce stade-là. Mais pour ceux qui sont d'une génération de courriel, effectivement, on a une dépendance très, très forte. Il y a beaucoup de communication qui circule par ça. Et quand mon service courriel est en panne, il y a un certain seuil d'agressivité qui s'ensuit. Et ça, tout à fait, oui, j'aime pas ça parce que ça me pénalise dans mes capacités de communiquer. Oui. c'est délirant. Mais en même temps, comme tu soulignais le fait que les gens prennent de mauvaises habitudes, dans le fond, d'utiliser la corbeille, entre autres, comme outil d'archivage, je peux faire un peu un lien sur ce qu'on parlait dans notre pré-show. il n'y a pas d'outils, du moins disponibles au grand public pour facilement archiver. Google en a un simili qui est comme ça, mais tu l'archives dans leur plateforme au lieu de l'archiver dans une place tiers. Ce qui fait que, dans le fond, tu fais juste comme déplacer en deux dossiers des courriels versus prendre une structure mieux organisée qui est faite pour archiver les courriels ou archiver n'importe quelle information par ailleurs. Moi, j'en ai une qui vit dans le monde de macOS, dans laquelle, quand il y a des chaînes de communication, des projets ou des éléments comme ça, je mets ça avec l'ensemble des informations qui s'en suivent. Mais c'est juste parce que j'étais un professionnel en TI, sécurité, que j'ai ce genre de choses-là. Puis même encore là, je ne suis pas super discipliné parce que ça demande un certain seuil d'effort, de temps et de réflexion associée avec ça, parce que faut que je prenne le temps de prendre les courriels, les transférer dans la dite boîte d'archivage et à part, qui vient vider mon serveur de courriel dans lequel vit ces choses-là. Donc, si j'avais été comme ces gens-là, j'aurais pas perdu 100% de mes informations parce que je n'ai archivé à côté. Et pour ceux qui connaissent ma petite histoire, on t'archive un endroit où j'ai les clés pour déchiffrer le contenu. Parce que c'est déjà arrivé d'avoir des backups chiffrés, qui est un très bon plan, sauf si tu perds la clé. Fait que dans ce cas-là, tu es dans la marde et tu perds toutes tes données. C'est impossible de revenir en arrière. C'est leçon apprise. J'ai toujours un set de clés caché en dessous du tapis pour usage à récupérer mes backups quelque part.
J'ai eu un problème similaire justement avec un time machine qui s'est corrompu. Et au moment où est-ce que je suis allé restaurer, j'ai décidé de restaurer la machine parce que je changeais de disque. Donc, j'avais fait un backup. Le backup avait fonctionné. Et après ça, moi, justement, tout était encrypté. J'avais File Vault aussi là-dessus. Et donc, tout ça pour dire que j'ai changé le disque. J'ai fait, bon, le nouveau disque, s'il est là, avec l'ancien disque, je peux tout de suite l'effacer pour le préparer, pour le mettre en secondaire. Et mauvais choix de vie. J'ai regretté parce qu'après ça, j'avais un backup de 200 gigs qui valait plus rien. Donc, j'avais des photos de une couple d'années que j'ai tout perdu ça, des vidéos, plein de choses comme ça que j'ai perdu, que je peux pas récupérer parce que j'ai pas la... J'avais la clé dans ce cas-là, mais le backup était corrompu. Chose que j'avais vraiment pas pensé. Et donc, en plus de faire des backups, c'est bien d'en faire un deuxième, juste au cas. C'est le même principe que si on extrait des vidéos d'une carte SD pour une caméra, par exemple, de faire un backup à partir de la source vers la destination dans les deux cas. Et non pas juste le backup de la source et du backup vers un autre backup, parce que le backup peut être corrompu entre les deux. Donc, c'est une autre bonne pratique qui peut être utile.
Ouais, c'est des leçons apprises très importantes. Moi, je les ai faites sur plusieurs années, celle-là. Fait que maintenant, j'ai toujours une clé qui est cachée quelque part ailleurs pour être capable de récupérer mes backups. Justement parce que, dans ce cas-ci, ma clé était dans la machine principale. La machine principale est morte. Donc, la clé est morte avec. Et pour faire un parallèle intéressant, parce que c'est pareil, la nouvelle, ça a créé une espèce de commotion dans l'univers du Bitcoin et du cryptocurrency. C'est qu'il y a justement un monsieur qui avait un wallet et qui avait le mot de passe. Et ce monsieur-là est décédé. Et son mot de passe l'a suivi dans la tombe. C'est qu'il n'y a personne qui est capable de récupérer ces informations-là parce que il est parti avec son pour toujours avec son mot de passe. C'est la manière des notions intéressantes, parce que là, tout le monde a dit que le cryptocurrency, c'était un échec, tout ça. Bon, là, je ne dirais pas juste que pour ce cas-là, pour dire que le cryptocurrency, c'est pas bon. Il y a d'espace à débattre sur la valeur réelle que ça a, puis le gain et le pas gain qui est associé à ça. Mais cela étant dit, ça relève le fait que, comme on vit dans un ère numérique, où tous nos choses, tu parlais des photos, entre autres, c'est très dommage de perdre des photos parce que maintenant, toutes nos photos sont là-dessus. Majoritairement, on n'a plus de photos papier, on n'a plus rien. Fait que tous nos souvenirs qu'on avait avant, maintenant, sont tous dans cette forme-là. On numérise beaucoup nos papiers, on numérise tout. Ce qui fait que, puis ça, c'est une chose, quand on est consciencieux, on chiffre toutes ces informations-là pour justement pas prendre cette information trop disponible à des gens qui ne sont pas supposés. Et le problème, c'est que si on a un problème de santé ou peu importe, il n'y a personne qui soit capable de retourner à chercher ces informations-là, qui, dans certains cas, peuvent être importantes. Dont des contrats d'assurance, par exemple, ou des informations comme ça qui peuvent être récupérées parce que si on a un moment de non-capacité temporaire. Donc là, on aborde, puis ça, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu. puis même dans le débat du Bitcoin, des cryptocurrencies, je ne l'ai pas entendu, d'avoir des keys escrocs. C'est des notions d'avoir des clés divisées qui permettent, disons, tu coupes ta clé en trois, tu as trois une clé qui est coupée en trois sur trois institutions différentes et que ces trois institutions-là doivent se réunir ensemble pour déverrouiller la clé pour aller accéder au compte. J'avais vu ça dans les années 90, ça n'a pas été populaire, ça avait été abandonné. Je pense que c'était RSA à l'époque qui avait ce genre de concept-là. Mais je pense qu'on est dans un moment où il faudrait qu'on commence à réfléchir à ce genre de choses-là parce que sinon, on se place dans des positions très, très précaires pour notre information. Puis, aux mêmes raisons que les profils Facebook, lors de la décès de la personne, il faut qu'il y ait comme une espèce de passage numérique de ces genres de choses-là. Donc, il faudrait qu'on aborde aussi qu'on ait un passage numérique du déchiffrement de notre information, qu'on ait une capacité, disons, d'invoquer genre une institution financière, un notaire, puis disons, un médecin, qui, les trois réunis, selon certains critères, vont être capables de dire, OK, on ouvre la clé de monsieur ou de madame pour accéder à son contenu qui est verrouillé par des clés de chiffrement. Donc, on a quelque chose d'intéressant à regarder, quelque chose à explorer, puis je pense qu'on va... ça. Puis ce cas-là est un autre cas parmi d'autres où on est rendu là.
Oui, je trouve ça intéressant le fait de pouvoir séparer une clé en plusieurs avec le escrow comme ça. C'est une bonne affaire. Ou même juste, à la limite, moi, ce que je pensais, que je veux pas juste le garder en idée, je veux faire quelque chose comme ça. Comme par exemple, tu as un gestionnaire de mots de passe, comme par exemple 1Password, que tu as le master password pour ça. Et tu es capable de pouvoir peut-être au pire l'imprimer sur une feuille à quelque part dans un coffre, que tu sers dans un coffre. Comme ça, l'époux ou l'épouse pourrait être en mesure de pouvoir récupérer ça, dépendamment pour les informations, mais c'est parce que c'est le genre de choses que, bon, mais si c'est toi qui s'occupe du compte de banque, ou bien si vous n'avez pas de compte conjoint, ben des fois, ça peut être un peu dur de pouvoir aller récupérer l'argent, ou c'est le genre de choses qu'on pense pas, parce qu'après ça, on fait comme, bon, ben c'est cette personne-là qui s'en occupe, mais quand cette personne-là n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu un cas avec un bon ami qui était décédé dernièrement. Puis, comme c'est là, on était capable, on a essayé de pouvoir récupérer les informations pour le serveur parce que c'est lui qui gérait le serveur pour plusieurs endroits avec les domaines. Et donc, bon, ben, quand les domaines tombent à expiration, tu peux peut-être les renouveler, mais tu ne peux pas les déplacer. Donc, si tu veux déplacer le serveur, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas, il faut que tu prennes des nouveaux noms. Puis prendre des nouveaux noms de domaine, ce n'est pas toujours possible. Donc, c'est un bel exemple d'un gros inconvénient qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on pense parce que c'est comme, bon, ben, cette personne-là s'en occupe, c'est bon. Mais ce n'est pas une bonne pratique du point de vue qu'on on devrait être en mesure de pouvoir au moins penser à y aller plus, au moins avoir une deuxième personne qui est en mesure de savoir. Nous, encore là, justement, comme je disais, le mot de passe dans un coffre, quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'au moins, cette façon-là, c'est possible de faire de quoi et on n'est pas... c'est pas vraiment possible de ne pas reposer la question après ça. Donc, rendu là, c'est un beau problème qui devrait être réfléchi.
Tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est des angles qui sont mal couverts à l'heure actuelle. Surtout, puis même en sécurité, on n'est pas très éveillé à ce genre de choses-là. Il va falloir qu'on aborde le sujet, surtout dans l'espace public, pour conscientiser l'ensemble des gens à ces préoccupations-là. Donc, on va en profiter peut-être pour glisser sur un autre sujet aussi qui, on revient sur le fait des machines à voter où Krebs aurait fait un énoncé aux législateurs pour leur dire que ce serait bien d'avoir une trace papier des machines à voter dans un contexte où on essaie de numériser, transformer des machines à voter par des systèmes beaucoup plus numériques, plus efficaces, mais en même temps avec un nombre de risques assez important. Je trouve ça intéressant qu'il en parle là, puisque cette approche-là est connue depuis quand même assez longtemps, pour une raison que je ne comprends pas, elle n'a jamais été popularisée à ce niveau-là. Puis c'est très simple, puis j'avais vu... Là, ça fait très longtemps, ça fait suffisamment longtemps, je ne me rappelle plus d'où ça arrive, mais je sais que justement, il parlait d'un endroit où les machines à voter généraient un bout de papier. Donc, autant du côté, ils enregistraient le vote électroniquement dans les systèmes informatiques, tout ça. ce qui permettait un affichage relativement rapide et immédiat du décompte du vote. Par contre, de personnes qui votaient, il y avait un petit bout de papier qui s'imprimait avec le choix de son vote. Et ce choix-là, la personne allait le déposer dans une boîte de votation, comme on fait normalement quand on coche papier. Fait que d'un côté, on a tout accès à la vitesse, à l'efficacité, et on évite que les gens aient à faire des décomptes manuels, ce qui réduit le côté très demandant en termes de ressources pour l'exécution d'un vote. Et s'il y a lieu d'avoir un décompte judiciaire, ben ça, à ce moment-là, on peut prendre le bout de papier qui sont conservés, qui sont bien sécurisés et d'arriver au même genre de choses. Fait que c'est très... c'est une vieille idée qui resurface. Je trouve ça fascinant.
Ouais, c'est spécial. C'est spécial, mais c'est vrai que c'est une très, très bonne idée. Très bonne idée d'avoir un backup. Encore là, on revient au backup pour être capable d'avoir quelque chose d'autre pour le vérifier, contre-vérifier les valeurs. Parce qu'on peut pas se fier juste un côté. Là. C'est un peu comme le principe d'encryption de non-répudiation qui fait en sorte qu'on est capable de pouvoir valider que c'est bel et bien la bonne personne à qui on parle et qu'on envoie des messages vers cette personne-là. Donc, je trouve ça vraiment bien comme solution. C'est de voir, comme tu dis, c'est étonnant que ce soit pas plus poussé que ça. Parce qu'on s'entend, oui, OK, on veut économiser le papier, là, ça c'est sûr. Mais à quelque part, ça a beaucoup d'implications quand on parle des votes. C'est très grave. Qu'est-ce qui peut en découler? Là? Parce qu'il y a n'importe quoi qui peut se passer.
Oui, puis tout le système démocratique est appuyé sur ce genre de choses-là. Fait que si on n'a pas des systèmes dans lesquels on a confiance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir confiance à tout notre système démocratique. Donc, c'est quand même assez important. Puis je trouve ça, en tout cas, minimalement, même si je trouve que c'est une vieille idée, puis ça aurait dû être plus mis en avant je trouve ça le fun que Krebs prenne sa notoriété puis puisse ramener ça dans l'espace public, qu'on ait un débat réel et constructif pour ce genre de choses. Et passons à la nouvelle suivante, où c'est essentiellement, on va parler d'un contexte légal dans ce cas-ci, où il y a une loi aux États-Unis qui vient de passer qui favorise l'échange, ou en tout cas le prêt temporaire, ou l'embauche temporaire sera plus exact, de personnes du privé dans l'espace, dans la fonction publique américaine. Ce qui fait qu'ils mettent une espèce de pont qui permet d'avoir un espèce de poste temporaire à des gens dans le privé de venir travailler dans la fonction publique et de contribuer de leurs connaissances qu'ils ont acquis dans l'espace privé, dans l'espace public. Parce que pour avoir fait des mandats dans les deux environnements, les préoccupations sont complètement différentes, les façons de faire sont complètement différentes. Puis de ce que j'ai constaté avec le temps, la valeur que j'apporte comme consultant, c'est le fait que j'ai voyagé chez beaucoup de clients, que j'ai vu beaucoup de choses différentes, ce qui fait que quand j'arrive, je ne peux jamais figer dans des idées où, tu sais, des idées sont peut-être plus étroites où j'ai eu l'occasion d'explorer des choses, de me mettre en contact, donc de me permettre de questionner davantage le statu quo pour voir si celui-ci aurait intérêt à être revu. Fait que c'est une très bonne idée. J'espère que ça va être imité par d'autres institutions. Puis c'est à la limite une certaine façon de venir contrecarrer l'explosion de la consultation en TI et en sécurité. Je sais qu'aux États-Unis, on a un peu sensiblement le même problème que nous au Québec, par exemple, parce qu'on charle beaucoup ici. Mais aux États-Unis aussi, les contractors sont très, très présents et en TI et en SI. Fait que cette façon-là de mailler cette connaissance-là, ça va peut-être réduire la dépendance aux consultants et de renforcer la fonction publique.
Oui, c'est une bonne chose parce qu'en réalité, quand on voit ça dans plusieurs cas, quand tu as quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il est à la même place puis qui ça fait 10 ans qu'il fait les mêmes procédures, les mêmes routines, tu vois pas autant de différents matériels, mais tu vois pas de nouvelles façons de procéder ou de nouvelles façons de faire. Fait que finalement, tu peux être pris dans tes vieilles habitudes. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose tout le temps, mais c'est parce que quand il y a le temps de pouvoir innover ou de pouvoir mettre quelque chose en place qui va être meilleur, un meilleur processus, une meilleure méthodologie de sécurité, par exemple, c'est bien de pouvoir avoir quelqu'un qui a vu du pays, là, finalement. Donc, quelqu'un qui a pu avoir plus d'expérience dans plusieurs cas et qui connaît plus de types de matériel, par exemple, plus de méthodes en général. Donc, quand tu es pogné avec un serveur que tu as juste vu des Dell dans toute ta vie, mais que le HP pourrait peut-être régler le problème, même affaire pour les routeurs et tout ça, c'est le fun. C'est le fun de pouvoir avoir plus de variété au niveau de l'information. Fait que moi je suis complètement d'accord avec ça. C'est vraiment une bonne chose de pouvoir ajouter du sang nouveau dans le processus. C'est très bien.
Ah, puis même personnellement, j'adore travailler avec des gens qui m'apprennent des nouvelles choses, être mis en contact avec des idées nouvelles parce que j'ai une grande expérience, oui, mais de cette grande expérience-là, il y a des grands bouts que je n'ai pas, que d'autres ont, et que ça peut bénéficier l'ensemble de ma propre connaissance et du plaisir que j'ai à travailler aussi, parce que quand je suis mis dans un contexte où j'ai des nouvelles informations, je peux voir les choses d'une façon différente, je peux évaluer les choses différemment, et des fois, ça ouvre un univers de possibilités. Et des fois, quand on est confronté à des problèmes qu'on n'est pas capable de résoudre, des fois, juste une vue extérieure va nous amener à regarder les choses sur un angle différent et nous aider aussi à regarder les choses sur des angles différents. Fait que c'est, en tout cas, pour moi, très bénéfique. Puis j'espère qu'on va pouvoir imiter ça davantage sous la formule qui était là et qu'on va voir se répandre cette espèce de... permettre à ces gens-là d'une certaine mobilité puis de pouvoir toucher à des choses. Puis justement, en parlant, ça me rappelle un cas où j'étais dans un client, c'est pas là, privé, dans lequel je lui avais mentionné que je n'avais pas vu aucun de ses employés en sécurité dans le milieu de la sécurité dans la région. C'est-à-dire que c'est comme s'il ne leur permettait pas de sortir de leur entreprise pour être confronté, ou en tout cas du moins discuter avec des gens dans différents forums. Il y en a plusieurs, là, il n'y a pas un particulier que je privilégie. Mais ces différents forums-là sont des endroits où juste faire du réseautage, juste rencontrer d'autres personnes et d'écouter des idées différentes sont un élément très important que j'avais souligné, que je n'avais vu aucune personne de son personnel dans aucun des circuits standards de formation, conférence. Fait que ça m'avait énormément fasciné à ce moment-là. Et ça arrive. Fait que c'est pas juste le public qui a ce problème-là. Et allons avec la dernière nouvelle, puis celle-là, puis je pense que Richard, tu vas être très d'accord avec cet élément-là en soi. Ils disent que les CISO sont de plus en plus sous pression parce que ceux-ci doivent répondre de plus en plus fortement de la sécurité de leurs infrastructures. Et pour plusieurs, puis ça je le vois là, autant dans le public que dans le privé, n'ont pas accès à toute l'information nécessaire pour prendre des décisions éclairé, parce que c'est très difficile en sécurité d'avoir une information exacte et une information utile.
Oui, tout à fait. Puis en même temps, quand vient le temps de pouvoir régler des problèmes, soit que tu as besoin de pouvoir avoir les ressources nécessaires, autant, comme tu dis, là, par rapport à l'information, autant les ressources pour pouvoir avoir un coup de main pour pouvoir régler des problèmes. Et parce qu'on est tous humains, là, on a tous le même nombre d'heures dans une journée et à un moment donné, il faut être capable de pouvoir faire en sorte de peut-être dormir. C'est quelque chose qui est bien dans l'eau, de pouvoir dormir de temps en temps. Mais en réalité, c'est ça, ça vient d'une question de ressources et aussi de training pour à être capable d'avoir non seulement les ressources nécessaires, les personnels nécessaires, mais aussi les informations du point de vue de, bon, mais comment qu'on procède pour pouvoir corriger tel ou tel problème? Si on ne sait pas que ça existe comme problème, c'est un petit peu difficile de corriger. Ça fait que dans le fond, d'avoir une formation au niveau des méthodes de piratage, par exemple, ça aide énormément à être capable de pouvoir corriger quelque chose. Comme quelqu'un qui va pouvoir installer un système d'alarme, s'il ne connaît pas aucune méthode comment un voleur fonctionne, c'est un petit peu difficile de pouvoir dire, ben, faudrait rajouter un détecteur de mouvement à tel endroit, faudrait pouvoir rajouter un détecteur de bris de vitre à tel endroit. Donc, c'est de voir le contexte et de penser d'une certaine façon. Donc, d'avoir la façon de penser qui n'est pas toujours le cas pour être capable de comprendre comment un attaquant peut travailler. Ce qui fait que c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est facile de pouvoir arriver en burn-out après ça, parce qu'autrement, on essaie de régler tellement de problèmes, on essaie de régler tellement de choses en même temps. On veut faire... Parce que je crois pas que quelqu'un qui veut bien faire son travail n'essaiera pas de se forcer à pouvoir bien faire les choses. Donc, par défaut, je donne le bénéfice du doute aux gens qui veulent que leur but, c'est vraiment de bien faire. Mais pour bien faire, il faut avoir les bons outils. Et pour avoir les bons outils, ben quelque part, c'est soit qu'il faut le demander et ou être capable d'avoir les ressources nécessaires pour ça, soit monétaire ou en personnel.
Effectivement, puis tu as amené un point très important sur le burn-out, parce qu'en sécurité, on est dans un environnement où le taux de burn-out est un des plus élevés, étant donné que la pression, elle est excessivement forte. Alors, c'est un sondage au niveau des CISO, mais c'est valide pour l'ensemble de la communauté en InfoSec où on est mis sous pression, on doit trouver des solutions rapidement, on est toujours en état d'urgence. Et un des constats de cette enquête-là, et elle est très intéressante, puis j'espère que ça va cheminer. Ils disent qu'à peu près 20% des CISO ont recours à de la médication ou de l'alcool pour être capable d'encaisser le degré de pression qu'ils reçoivent. Donc, c'est des indicateurs clairs de burn-out potentiel, de gens qu'on use à des vitesses qui sont complètement folles. Donc, ça serait intéressant, en tout cas, qu'on en discute de façon plus large. Puis, à certains égards, puis ça, on l'a fait un peu avec le HackFest aussi, parler de la santé mentale. La santé mentale au sens large, pas juste pas des problèmes très graves, mais de la santé mentale au sens où l'épuisement professionnel fait partie des éléments de santé mentale qui est très important de discuter, puis qui, des fois, peut mener à des gestes tragiques chez certains individus, puis on en a dans notre entourage à qui c'est arrivé. C'est pas heureux. Faut être là. Mais c'est un problème qui est très présent en SI, un peu moins en TI, mais quand même. Donc, tout ça est important. Puis ces enquêtes-là mettent en lumière un peu le degré de pression. Puis la pression vient aussi avec, c'est une autre chose, un autre lien que tu fais, c'est la disponibilité des moyens. Si on a la pression de livrer sans la capacité de livrer, c'est sûr qu'on s'en va vers un chemin négatif. Et qui va mener beaucoup de gens dans des zones très obscures de leur vie où la santé mentale peut entendre être mise en jeu, mise en cause. C'est très, très ça. Je pense que je vais arrêter là parce que ça commence à devenir un peu plus dark là, ce que j'aborde. C'est important, il faut en parler. S'il y en a, puis là je fais un message en fond à nos auditeurs qui ont des préoccupations de ce côté-là. Allez chercher de l'aide si vous en avez besoin. Parlez-en. La consommation de médication ou d'alcool n'est pas une solution. Fin du message de bien public. Et sur ça, on va terminer l'épisode là-dessus. Fait que ça a été très agréable de te revoir, Richis. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas eu sur l'épisode avec nous autres. J'espère que le prochain enregistrement ne prendra pas autant de temps, parce que je pense qu'on a à chaque fois des échanges... fort, fort merveilleux, fort enrichissant. Pour moi, ça m'enrichit à chaque fois. Donc.
Oui, bien écoute, on va s'arranger pour pouvoir donner un petit peu plus de temps dans l'horaire pour faire ça, parce que moi aussi, j'apprécie énormément. J'apprécie énormément ces petits temps-là. Et donc, c'est un petit peu un break dans la semaine pour être capable de discuter de choses intéressantes qui c'est pas toujours possible dans les environs. C'est comme c'est là, moi, je travaille. Normalement, je travaille de la maison. Donc, de pouvoir avoir des communications avec certaines personnes qui parlent le même langage, c'est pas tout le temps faisable. Donc, ça, à ce moment-là, c'est intéressant.
Tout à fait. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine en toute sécurité, si possible.
Bonne semaine.